Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Une grève au long cours à la SNCF à partir du 3 avril. Les syndicats appellent à cesser le travail pendant 2 jours par semaine jusqu'à l'été. Ils entendent dénoncer la réforme de l'entreprise ferroviaire voulue par le gouvernement. Les explications d'Hakim Kasmi dans un instant. Plusieurs dizaines de milliers de retraités ont manifesté aujourd'hui dans toute la France contre la hausse de la CSG. Ils refusent les sacrifices réclamés par Emmanuel Macron. Reportage de Kevin Dufraîche dans le cortège parisien. En Syrie, le régime Assad est sur le point de reconquérir la Ghouta orientale, ultime fief rebelle aux portes de Damas. Nous ferons le point avec Omar Waman. Pour 92% des Français, le journalisme est un métier utile. Un sondage Via Voice pour les Assises internationales du journalisme, sondage que nous commenterons avec notre invitée, la sémiologue Virginie Spies. Il y aura donc grève à la SNCF dans les prochaines semaines. 4 syndicats se sont mis d'accord ce soir pour une mobilisation qualifiée d'innovante. 2 jours de grève hebdomadaire entre le 3 avril et le 28 juin. La CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT rejettent la réforme de la SNCF que le gouvernement entend mener par ordonnance. Réforme qui prévoit notamment la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Hakim Kasmi, bonsoir. Alors en quoi consiste cette grève perlée ?
La méthode est à la fois inédite et innovante. En faisant grève pendant 3 mois, à raison de 2 jours par semaine, l'intersyndicale entend faire pression sur le gouvernement pendant la durée des débats parlementaires sur la réforme ferroviaire. Une stratégie qui doit également permettre aux cheminots de tenir sur la longueur financièrement parlant, mais aussi d'éviter de se mettre à dos l'opinion publique, ce qui pourrait être contre-productif. Didier Maubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots.
Cette grève n'est pas une grève corporative, c'est une grève pour l'avenir du ferroviaire. C'est pour ça que nous prenons en compte à la fois les intérêts des cheminots, mais aussi l'intérêt des usagers et des clients. Demain, quand il n'y aura plus de ferroviaire, ben, ma foi, il ne faudra pas compter pour les cheminots sur le défendre. Donc la balle est vraiment dans le camp du gouvernement. S'il veut éviter ça, c'est à lui d'ouvrir les négociations. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, il annonce 20 séances de concertation. Avec du grain à moudre, on n'a vu ni le grain ni le moulin jusqu'à présent.
En attendant de négocier avec le gouvernement, derrière les apparences d'union de façade, la méthode choisie montre un désaccord syndical. Car la CGT et Sud souhaitaient une grève reconductible toutes les 24 heures avec des assemblées générales. La CGT promet déjà une forte mobilisation aux côtés des fonctionnaires le 22 mars avec 25 000 cheminots dans la rue. L'intersyndicale doit se retrouver mercredi prochain pour préciser les modalités de la grève.
Hakim Kasmi, merci. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, déplore ce soir, je cite, une posture incompréhensible des syndicats, une décision qui manifestement vise à pénaliser les usagers de la SNCF. Fin de citation. Le gouvernement qui doit aussi affronter la colère de très nombreux retraités. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont manifesté aujourd'hui dans toute la France pour dénoncer la hausse de la CSG. Entre 39 000 et 68 000 manifestants, selon un compte de l'AFP. Depuis le 1er janvier, la CSG a augmenté de 1,7% pour 60% des retraités. Une hausse qu'Emmanuel Macron assume totalement au nom de la solidarité intergénérationnelle. Un discours présidentiel qui ne passe pas chez les retraités en colère. Kevin Dufraîche a pu le constater dans le cortège parisien.
Et oui, et ce nom, il n'étonnera personne.
Monsieur Macron.
Emmanuel Macron qui a affirmé aujourd'hui respecter les retraités. Mais la petite musique du président des riches se faisait entendre dans le cortège aujourd'hui. Claude, 72 ans.
Il n'aime pas les petites gens, les petites gens en ont assez. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui qui ne voteront pas la prochaine fois. Moi, j'en fais pas partie. Donc déjà, de ce côté-là, je suis contente. C'est ma seule satisfaction.
Lui en fait partie, justement. Pierre est déçu par le président parce que, selon lui, il change toute une philosophie française sur les retraites.
J'ai commencé à travailler à 15 ans et demi. Toute ma vie, on m'a dit, vous allez travailler pour la retraite de vos anciens, ce qui était tout à fait normal. Aujourd'hui, on nous dit, vous allez payer pour les jeunes qui vont travailler, pour diminuer leurs cotisations. Tout ce qu'on nous a expliqué pendant 42 ans, on le fout en l'air.
Mais Emmanuel Macron assume ses réformes, pas question de revenir en arrière. Alors à quoi bon ? Daniel ne compte pas lâcher le morceau.
Même si ça sert à rien, moi je ne veux pas me laisser plumer sans rien faire. Donc je veux agir et je continuerai. S'il y a d'autres manifestations, je viendrai à toutes les manifestations. Et je ne suis pas la seule.
Daniel qui compte bien de nouveau donner de la voix dans une semaine aux côtés des fonctionnaires.
Kevin Dufraîche en déplacement en Touraine. Emmanuel Macron a minimisé les différents mouvements sociaux qui tentent à se développer dans le pays. « Je n'ai pas senti de colère », a déclaré le président au terme de sa journée en Touraine. Et le chef de l'État de dénoncer, je cite, « des gens qui essayent de dresser les Français les uns contre les autres. Ce n'est jamais une bonne idée », a conclu le président. En Syrie, la guerre est entrée aujourd'hui dans sa 8e année. En 7 ans, le conflit a déjà fait plus de 353 000 morts, selon les derniers chiffres de l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bachar al-Assad est toujours au pouvoir à Damas et ses troupes sont en passe de reconquérir la Ghouta orientale. Le régime aurait repris 70% de l'enclave rebelle aux portes de la capitale. Environ 20 000 civils ont déjà fui les combats. On fait le point avec Omar Waman.
C'est en progressant à partir du sud de la Ghouta que les forces du régime syrien, précédées par des raids aériens d'une rare violence, ont pu percer les lignes rebelles avant d'entrer dans la ville d'Amouriyé, un des bastions de l'opposition, et ouvrir une brèche dans laquelle des milliers de civils se sont rapidement engouffrés à pied sur des motos ou dans des voitures surchargées. Parmi eux, de très nombreuses femmes et enfants qui ont pu fuir à travers un couloir établi par le régime syrien et supervisé par l'armée russe. Face à l'avancée des forces de Damas, les rebelles ont fini par se retirer de plusieurs localités, Amouriyé, mais également Kafar Batna et Jisrin, ce qui permet au régime de Bachar el-Assad de contrôler désormais près de 70% de l'enclave. Les prochains jours seront décisifs. Des négociations ont déjà commencé entre l'opposition et le régime qui devraient déboucher sur une évacuation des insurgés de Douma, grande ville de la Ghouta, vers le nord-ouest de la Syrie, dernière zone qui échappe au pouvoir de Bachar el-Assad.
Omar Waman, correspondant de Radio France à Beyrouth. 92% des Français estiment que le journalisme est un métier utile. Voilà ce qui ressort d'un sondage réalisé par l'Institut Via Voice, enquête présentée aux Assises internationales du journalisme qui se tiennent cette semaine à Tours. Le sondage montre aussi qu'aujourd'hui, les Français qui cherchent des informations sur Internet passent d'abord par un moteur de recherche. Invitée de ce journal, la sémiologue Virginie Spies, spécialiste des médias, maître de conférences à l'Université d'Avignon. Bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Spies, comment vous expliquez le fait que presque tous les Français finalement voient dans le journalisme un métier utile ? On fait confiance aux journalistes pour lutter contre les fake news ?
Oui, on fait confiance aux journalistes et c'est bien normal à l'heure où il y a de plus en plus de médias, une prolifération en fait de médias et notamment de médias du web. Il est naturel et tout à fait normal que le public ait un peu peur et surtout soit un petit peu perdu finalement face à tous ces médias et donc finalement se rendre compte qu'on a besoin des journalistes pour mieux comprendre notre monde et notre société.
En même temps, il y a de plus en plus de critiques contre les journalistes.
C'est ça, il y a de plus en plus de critiques contre les journalistes parce qu'il y a aussi de plus en plus d'espace de la critique. Alors ça vaut pour les journalistes, mais ça vaut quasiment pour toutes les professions et tous les faits. On voit bien que l'espace de la critique est de plus en plus important, notamment avec les réseaux sociaux. Et donc il est vrai qu'il y a de plus en plus de critiques envers les journalistes, car dès qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un repère un événement, une erreur, une faute éventuellement d'un média ou d'un journaliste, aujourd'hui il dispose de lieux pour en parler, les réseaux sociaux qui peuvent après être repris par exemple sur les pure players ou sur les autres médias. Donc oui, il y a de plus en plus de critiques, mais critique ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus confiance aussi. Hein. Il faut un petit peu peut-être mettre de la nuance là-dedans.
Alors, il y a tout de même une évolution dans la consommation des médias, puisque l'accès à l'information se fait de plus en plus par les moteurs de recherche. Et ça, c'est un phénomène qui va s'accélérer selon vous ?
Alors ça, certainement, ça va s'accélérer, hein, le fait de rechercher de l'info par les moteurs de recherche. On a besoin de quelque chose, on la cherche, c'est une forme de facilité, c'est très nouveau, ça il faut pas l'oublier, donc il y a aussi un besoin d'adaptation, ça a 5 ou 10 ans, donc dans l'histoire des médias finalement ce n'est rien, et c'est très troublant quand on réfléchit à l'histoire des médias contemporains. Voilà, il faut juste rappeler que en 1972 c'était la naissance de SR3, comme on l'appelait à l'époque, il y avait que 3 chaînes, hein. Et aujourd'hui, voilà, un peu plus de 40 ans après, on a autant de médias quasiment que l'on veut. Donc les modes de consommation évoluent très fortement et c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que c'est certainement plus de démocratie et plus de liberté, mais dans le même temps, on peut être perdu, et donc il y a besoin d'une meilleure compréhension et également d'une éducation aux médias plus forte et plus importante pour que chacun puisse s'y retrouver.
En fait, aujourd'hui, de plus en plus, notamment les jeunes, ils ne vont pas sur un site d'information proprement dit.
Oui, ils vont aller plutôt dans un moteur de recherche bien célèbre et chercher l'info dont ils ont besoin. Alors là, on pourrait dire presque pourquoi pas, du moment que ces mêmes jeunes savent où ils tombent. C'est-à-dire, en gros, puissent distinguer quand ils tombent sur un vrai site d'info, prenons France Info par exemple, dont c'est le métier, le cœur de métier, et un site de fake news, comme on dit aujourd'hui. Donc tout l'enjeu est que chacun puisse distinguer quand il tombe sur quelque chose, sur une info, qui me parle. Donc quel est l'énonciateur, comme on dit en sémiologie. Et c'est exactement le travail qu'il faut faire aujourd'hui pour réinstaurer de la confiance et qu'il y ait moins d'erreurs qui circulent.
Justement, à propos des fake news, Virginie Spies, 49% des Français estiment qu'une loi contre les fake news en période électorale, telle qu'elle est envisagée par le gouvernement, que cette loi serait dangereuse pour la liberté d'expression.
Alors là, c'est toute la difficulté de cette loi sur les fake news, dans le sens où, de toute façon, il est interdit de dire des choses fausses depuis fort longtemps. Mais en plus de fake news aujourd'hui, plus de fausses informations, il y a même la notion de vérité alternative utilisée par la conseillère en communication du président Trump. Donc on voit bien que là, il y a une frontière quand même qui pose problème. Donc une loi sur les fake news, je ne sais pas si ça va être très utile en période électorale. Ça peut être au moins intéressant dans le sens où ça fait que les gens maintenant parlent beaucoup de cela et peuvent être un petit peu alertés sur ces questions. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. La seule solution, à mon sens, pour lutter contre ça, c'est l'éducation aux médias, dès le départ, dès l'école, pour tous, tout le temps et à tout moment de la vie, en fait. Donc de la pédagogie, comme on est en train d'en faire en ce moment.
Le sondage montre aussi que les Français préfèrent un journalisme neutre, objectif, et pourtant on assiste à la naissance de médias partisans comme le Média, proche des Insoumis, ou bien à droite la France Libre. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans cette situation ?
Oui, c'est encore un paradoxe qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en effet, on voit en plus qu'en ce moment, il y a non seulement des médias qui naissent, des médias qui sont loin d'être neutres, qui ont un point de vue, des médias qui sont un peu plus neutres et qui marchent également très bien. Et je crois que là, il y a une petite erreur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tout puisse exister dans une société démocratique. Il faut qu'on puisse à la fois avoir des informations relativement factuelles et explicatives, et en même temps, pourquoi, si je suis plus à droite, avoir un média qui me ressemble, ou plus à gauche, un média qui me ressemble, ou au contraire, ce qui est très bien aussi avec les médias un peu politisés, c'est qu'on peut, si on est curieux, lire justement un média qui n'est pas de notre couleur politique pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Donc je crois que tout doit pouvoir coexister. Maintenant, il est clair que le journalisme neutre n'existe pas vraiment, puisqu'il y a toujours un développement, même si on n'est pas dans la politique, il y a toujours un regard. Un journaliste, quand il fait un sujet, un reportage, il porte son propre regard. Il ne publie pas des dépêches tout au long de la journée. Donc la neutralité est complexe et elle n'existe pas vraiment.
Virginie Spies, maître de conférence à l'Université d'Avignon, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est un demi-succès judiciaire pour Facebook. Le tribunal de grande instance de Paris a débouté aujourd'hui un internaute français, Frédéric Durand, reproché au géant américain d'avoir désactivé son compte pour avoir publié une photo de l'origine du monde, le célèbre tableau de Courbet représentant un sexe féminin. L'internaute réclamait 20 000 euros de dommages et intérêts, demande rejetée par le tribunal qui a tout de même pointé la responsabilité de Facebook dans cette affaire. Les explications de Farida Noir.
Pour le tribunal, Facebook a bien usé d'une clause abusive en désactivant le compte de Frédéric Durand-Baissas sans le prévenir. Pour autant, il ne condamne pas le géant américain car il estime qu'il n'y a aucun préjudice puisque l'enseignant a pu se créer rapidement un autre compte sur le réseau social. Pour maître Marion Cotineau-Jousse, qui défend le plaignant, c'est quand même une demi-victoire, même si le tribunal a complètement occulté la question de la censure ou non du tableau de nu.
Aujourd'hui, nous n'avons pas obtenu la réactivation du compte et 20 000 euros de dommages et intérêts. Malgré tout ça, oui, Facebook commet une faute et c'est reconnu. Donc c'est extrêmement important pour cela. Deuxième point, cette décision, elle ne reconnaît pas le préjudice que nous avons pourtant démontré et qui a été subi par M. Durand-Baissas.
C'est-à-dire la perte de tous ses textes et toutes les photos que le professeur des écoles avait publiées sur son profil supprimé. Pour lui, la décision du tribunal n'est pas claire.
Moi, j'avais l'impression d'une grande liberté sur Facebook. En fait, elle n'existe pas, c'est un leurre en fait. C'est ça qui me gêne. C'est le leurre de cette liberté qu'on peut avoir. En mettant de la culture, et en fait, cette culture, elle disparaît, et il n'y a aucune reconnaissance là-dessus. Par contre, y a plein de choses sauvages qu'on voit, des choses horribles, des assassinats, et ça, parfois, ça reste plus longtemps que l'art, et c'est ça qui me gêne.
Les avocats ont annoncé qu'ils comptaient faire appel.
Farida Noir, merci. Facebook a réagi ce soir par l'intermédiaire d'un communiqué. Nous tenons à rappeler que l'origine du monde est un tableau qui a parfaitement sa place sur Facebook. Voilà ce qu'affirme le géant américain. Le temps demain, variable sur la majeure partie du territoire. Les giboulées seront nombreuses sur la moitié ouest. Sur le quart nord-est, quelques gouttes possibles. Et de l'orage en Bourgogne, Auvergne et Rhône-Alpes. Les températures minimales de 3 à 12 degrés du nord au sud. Les maximales s'échelonneront de 9 à 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Benetto.